Mika, donc, qui avait créé cette chanson en 2014 pour répondre au débat sur le mariage gay. Lui qui a été victime d'homophobie. Ce n'est pas parce qu'on est une vedette qu'on n'y échappe pas. Mika, donc, dans Boum Boum Boum, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie en ce 17 mai. Et ça me fait bien plaisir d'en parler avec Laurent Brault, directeur général à la Fondation Émergence. Bonjour, Monsieur Brault.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Brault, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la Fondation Émergence, nous dire en quelques mots à quoi elle sert, quel est son mandat?
Certainement. Donc, la Fondation Émergence est un OBNL créé en 2000 au Québec. Puis, notre mission, c'est de sensibiliser le grand public sur les enjeux des personnes LGBTQ+. Donc, on lutte contre les préjugés, la discrimination envers les personnes LGBTQ+. Et la Fondation, son programme phare, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu aujourd'hui, le 17 mai. Donc, c'est une journée qui a été créée pour la première fois au monde par la Fondation et qui est maintenant soulignée dans plus d'une centaine de pays.
Ah oui, qui a été créée il y a presque 20 ans.
Exactement, oui, on est à la 20e édition de la campagne, mais au 19e anniversaire, là, il y a toujours un décalage entre les deux. Donc oui, on en est très fiers. Chaque année, on produit une campagne de sensibilisation, puis on est à la 20e édition.
Et l'idée donc de cette journée internationale du 17 mai a fait des petits, là. Ça s'est répandu ailleurs dans le monde.
Oui, c'est donc plus d'une centaine de pays qui soulignent le 17 mai. Vous savez, dans des pays où l'homosexualité est criminalisée, c'est encore 68 États qui criminalisent l'homosexualité, c'est beaucoup.
Ouais.
Mais cette journée-là est un moment où les organismes LGBT des sociétés civiles s'organisent pour faire parler de leurs droits, de lutter pour leurs droits, pour sensibiliser la population, se rassembler. Donc, c'est vraiment une journée fondamentale là, partout dans le monde pour faire avancer nos revendications.
Et Laurent Brault, je crois que le 17 mai, c'est une date symbolique.
Oui, c'est en fait une commémoration à la base d'une grande victoire. Le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc, d'une certaine manière, là, ça fait à peu près 30-40 ans qu'on n'est plus considéré comme des malades mentaux. C'est quand même de base, là, mais c'est somme toute assez récent.
C'est pas parce qu'on
cette victoire.
C'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle, hein?
Exact, oui.
Alors, dans le thème de la journée, on parle d'homophobie et de transphobie. Il y a d'autres mots aussi auxquels on est moins habitué. La biphobie, la gayphobie, la lesbophobie. On est capable de deviner de quoi il en retourne. Mais est-ce que vous pourriez, pour ceux et celles qui sont pas familiers avec le langage, d'abord LGBTQ+, ça veut dire quoi?
Oui, bon, il y a eu une époque où on n'avait aucun mot hein, pour parler de l'homosexualité. Il y en avait très, très peu. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mots, puis ça permet de mieux comprendre nos enjeux. Donc, L pour lesbienne, G pour LGBT, LGBT, qu'est-ce que je le dis? Pour gay,
oui.
LGB, B pour bisexuel, T pour personne trans, Q pour queer, et le plus pour, le but, c'est pas d'oublier personne,
oui.
C'est d'inclure toutes les autres couleurs de notre arc-en-ciel, donc les personnes asexuelles, par exemple, aromantiques, bispirituelles aussi pour les autochtones, le pansexuel, donc il y a toutes sortes de catégories, si je peux dire, comme ça, qui existent, et dans le but d'oublier personne. Donc, c'est un long acronyme, mais fort utile.
Certainement. Est-ce qu'on a des avancées? Est-ce que vous remarquez qu'il y a eu du progrès? Oui, vous parliez de le fait que maintenant l'homosexualité n'est pas considérée comme une maladie mentale, mais il y a encore plusieurs États qui punissent les homosexuels. Mais est-ce que vous voyez quand même qu'il y a des progrès qui ont été faits concernant les droits des communautés LGBTQ+?
Faut le dire, oui, il y a du progrès. Ce que les rapports disent sur la situation internationale, ça inclut le Québec également, puis le Canada. Donc, il y a une avancée générale de nos droits. Donc, ça, on peut s'en féliciter. Ça va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais on a encore du chemin à faire, évidemment. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que plus on avance au niveau des droits, plus il y a un effet de ressac ou de backlash, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une montée des violences.
Ah oui.
C'est un peu comme quand on est dans le placard, c'est un mécanisme de défense, on veut pas faire de vagues, donc l'homophobie ambiante est comme latente. Mais dès qu'on s'affirme puis qu'on dit j'existe, j'utilise mes droits, je m'affirme, c'est là que l'homophobie peut devenir réactive.
L'homophobie, c'est la haine des homosexuels?
Exactement. Et la transphobie, la haine envers les personnes trans. Mm-hmm. Si on étale ça au niveau sociétal, au niveau de la société, ben plus on gagne en liberté, plus il y a une réaction négative.
Ça dérange.
Ça dérange, exactement. Donc, une montée des violences, même ici au Canada, là, il y a une augmentation des crimes haineux envers les personnes LGBTQ+. Donc, nous, on vise à dénoncer ces violences-là.
Et est-ce que vous avez espoir que le vent tourne, que plus vous allez dénoncer, ben plus on va vous respecter, finalement?
Oui, je pense que le meilleur moyen, c'est de sensibiliser le grand public, c'est de faire de l'éducation aussi au niveau des écoles, dans les entreprises aussi, au niveau des institutions publiques. Donc, il y a une panoplie d'organismes communautaires LGBTQ+, qui font un travail incroyable dans toutes les régions au Québec. C'est des vecteurs de changement. Mais ce qui est fondamental, c'est les alliés, c'est le grand public, c'est la population en général. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui est homosexuel ou une personne trans. Ou les deux.
Ouais.
Donc, il faut se rappeler que ces personnes-là sont chères, c'est nos proches. Puis, c'est dans ce sens-là qu'il faut ensuite mobiliser pour protéger ces personnes-là, puis qu'elles se sentent incluses. Donc, on peut élargir le mouvement, si je peux dire, puis c'est comme ça qu'on peut préserver nos droits, préserver nos acquis, puis aller encore plus loin pour l'inclusion.
Vous avez créé un document de plusieurs pages vraiment bien fait. Est-ce qu'il est accessible à tous et à toutes?
Oui, donc sur le site montre54secondes.com, donc c'est le site officiel de notre campagne cette année. C'est une campagne qui vise à dénoncer l'intolérance et les violences associées qui, lorsqu'on fait le cumul, réduisent l'espérance de vie de nos communautés. Puis on a créé un objet symbolique qui est une montre à 54 secondes et non pas 60 secondes pour illustrer. Donc c'est une montre qui donne pas l'heure juste, mais qui donne l'heure juste sur la gravité de la situation. Donc, vous pouvez aller voir tout notre matériel, notre vidéo promotionnelle, la montre avec toutes les explications sur le site montre54secondes.com.
J'ai pas nécessairement bien saisi la symbolique de la montre et des minutes de 54 secondes qui s'écoulent.
Oui, donc c'est 6 secondes de moins associées à chacune des 6 violences, donc médicale, institutionnelle, physique, psychologique, économique et sexuelle, mm-hmm. pour vraiment illustrer qu'à chaque fois qu'on ajoute une violence, il y a une réduction du temps de vie, de l'espérance de vie. Donc, c'est pour ça que si on comparait une vie d'une personne LGBT à une personne non LGBT, ben notre espérance de vie serait plus courte. Donc, si on réduit tout ça à 60 secondes, notre vie serait de 54 secondes. Donc, c'est vraiment symbolique, on s'entend.
Oui, oui. Mais ça frappe, là, l'imaginaire.
Oui, puis vous pouvez aller voir la vidéo qui montre toute la conception de la montre puis qui donne beaucoup plus de détails sur cette notion-là de réduction de l'espérance de vie.
En ce 17 mai, merci encore, M. Brault, d'être avec nous. Vous, qu'est-ce que vous faites de spécial aujourd'hui?
Une série d'entrevues.
Vous êtes bien sollicité.
Oui, et on est bien heureux de cela. On partage aussi notre campagne le plus possible sur les réseaux. On a également un événement à Ottawa avec plusieurs représentants des ministères fédéraux, députés et des organismes internationaux pour y présenter la campagne. Autrement, mon équipe fait plusieurs formations dans différentes entreprises sur les enjeux LGBTQ+, en milieu de travail, dans le milieu des aînés. Donc, on a différents programmes qui se déploient dans les différents milieux aujourd'hui. Donc, c'est principalement nos activités aujourd'hui.
J'étais curieuse de savoir, M. Brault, face aux propos homophobes ou transphobes qu'on peut recevoir, disons, à l'école ou dans un milieu de travail, quelle réaction vous suggérez d'avoir?
Bien, la première des choses, si, mettons, ça dépend aussi des contextes, là. En milieu de travail, la meilleure manière, c'est d'exprimer à la personne qu'on a ressenti un malaise puis qu'on aimerait que son comportement arrête.
Il ne faut pas gêner de le dire.
Exactement. Puis, dans le milieu scolaire, ça peut peut-être être un petit peu plus compliqué pour les jeunes. Il ne faut pas hésiter à aller voir un intervenant, une intervenante, là, son professeur, la personne à l'intervention psychosociale, la direction. Pour régler la situation.
Sinon, ça peut dégénérer.
Exactement, oui, ça peut aller très loin. Vous savez, j'imagine que vous avez entendu parler de l'enfant Alex qui s'est enlevé la vie, enfant de 10 ans.
Oui.
Donc, un enfant trans, donc il s'est enlevé la vie à cause de l'intimidation à l'école qui est basée sur sa transidentité. Donc, ça a été une onde de choc là, pour le Québec. De penser qu'un enfant de 10 ans peut se rendre jusque-là. Mais en même temps, ça révèle aussi toute la complexité puis la puissance de l'intimidation dans les écoles. Et je pense que les administrations scolaires doivent prendre acte. Moi, je pense qu'il y a différents organismes qui font un travail extraordinaire, comme le Gris Montréal, qui va faire des ateliers, des témoignages dans les écoles. Il faut aussi prendre en compte le personnel scolaire. Si le personnel n'est pas inclusif lui-même, ça va être très dur ensuite de montrer l'exemple. Donc, il y a un travail aussi à ce niveau-là.
Et puis, pour rester à l'école, les personnes qui vivent de l'intimidation finissent par s'isoler et finissent aussi par, si elles ne sont pas entourées et aidées, ça fait des décrocheurs scolaires.
Tout ça s'enchaîne. Là.
Ouais.
Vous savez, même dans les familles, on a remarqué dans les statistiques que déjà à la base, il y a beaucoup de jeunes LGBTQ+, qui sont en surreprésentation dans les personnes itinérantes. Puis avec la pandémie, le chiffre a triplé. Ça s'explique en grande partie par le fait que les familles n'étaient pas acceptante, inclusive, alors qu'on confinait les jeunes dans leur famille durant la pandémie. Donc, plusieurs ont décidé de fuguer, de quitter le noyau familial et se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, c'est pour faire le parallèle, mais c'est la même chose de décrochage scolaire. Ou c'est la même chose en milieu de travail. Quand on n'aime pas son emploi parce qu'on ne se sent pas à l'aise d'être soi-même, on veut quitter. Là,
on n'a pas le goût de rester. Ouais, ouais. Des fois, on n'a pas le choix parce qu'il faut mettre du beurre sur notre pain, mais ça crée des journées cauchemardesques.
Plus longues.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous parlez dans le document du verbe « tolérer ». On entend souvent ça. Oh, moi, je tolère toutes les communautés LGBTQ+. Et vous voulez plus que ça.
Oui, on est passé de la tolérance à l'acceptation, puis aujourd'hui, on parle plutôt d'inclusion. Donc, il y a comme une gradation qui s'est faite au cours des années. Puis, la tolérance, c'est sûr qu'on tolère une situation, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte puis qu'on souhaite qu'elle existe. Là. Donc, on tolère que des personnes LGBT, mais on entretient encore nos préjugés, nos biais. On dit « Oh, tant que c'est pas dans ma cour, aucun problème, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. » L'acceptation, c'est déjà une plus grande ouverture. Là. Il y a quand même une marge de plus pour l'inclusion, mais l'inclusion, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est qu'on puisse être nous-mêmes partout, dans tous les milieux, puis ne pas sentir qu'on est exclu, participer dans tous les domaines de la société, que ce soit au travail, dans le sport, il y a énormément de travail à faire, dans le milieu scolaire, donc c'est en ce sens-là qu'on vise l'inclusion qui est beaucoup plus que l'intolérance, mais il faut y aller aussi au niveau des zones géographiques. Nous, c'est une journée internationale, c'est sûr qu'on ne pourra pas demander l'inclusion dans un pays comme le Cameroun, par exemple, qui interdit l'homosexualité, qui la pénalise. Là. Donc, il faut y aller aussi en fonction des différents contextes géographiques puis des difficultés rencontrées.
Oui, étape par étape, selon là où on est rendu dans chacun des pays du monde. Là.
Exactement.
Mais il ne faut pas lâcher.
Non, puis il faut s'appuyer sur les organismes de la société civile. C'est vraiment ces organismes-là qui sont la clé pour faire changer les choses. Au niveau de la francophonie, je parlais du Cameroun, là, c'est 14 États dans la francophonie qui criminalisent les rapports entre personnes de même sexe. C'est beaucoup.
Ouais.
Et malheureusement, ces États-là font un blocus au niveau de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est très difficile ensuite de parler de droits humains, là. Donc, mais les organismes de la société civile sont la clé. Il faut arriver à les soutenir. Puis, parce que plus le temps passe, plus il y a une différence immense, un écart, là, entre la francophonie puis l'anglophonie. Puis, il y a quelque part où il faut rattraper, là, notre retard.
Un fossé inquiétant.
Oui.
Alors, M. Brault, il y a une pétition qu'on peut signer si on veut aider la cause?
Exact. Un geste tout simple, mais qui, collectivement, va changer énormément de choses. Donc, c'est une pétition qui sera envoyée à l'ONU pour que l'ONU reconnaisse officiellement la journée internationale. Donc, ça peut être étonnant qu'une journée qui est soulignée dans la majorité des pays ne soit pas officiellement reconnue, mais c'est parce qu'il y a énormément de pays qui ne souhaitent pas entendre parler des droits LGBTQ+. Donc, très difficile de faire reconnaître officiellement cette journée-là, mais on veut créer un mouvement de masse pour au moins ouvrir la conversation. Donc, les gens peuvent, j'invite tout le monde à aller signer la pétition qui est sur le même site que tantôt, là, montre54secondes.com. Ça prend même pas une minute, puis nous, ça nous aide énormément dans notre travail.
Ben oui, on ira signer. Et ben, j'invite aussi les gens à découvrir le document. C'est vous qui l'avez rédigé, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
17 idées pour le 17 mai. Comment réagir face au coming out d'une élève? Le lexique aussi pour comprendre des mots comme binarité du genre, asexuel, aromantique. Je vais mettre tout ce petit dictionnaire ici en studio sur notre babillard parce que il y a des mots qui nous échappent et quelquefois on se met le pied dans la bouche, mais c'est pas volontaire, c'est pas de la mauvaise volonté. Alors plus on en saura, plus les préjugés vont tomber et plus la communication va être facile. C'est ce qu'on souhaite. Laurent Brault, merci beaucoup.
Merci à vous.
Passez
bonne journée aujourd'hui.
Oui, vous aussi, un beau 17 mai. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Émergence.